Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, s'apprête à débuter. Et au sommaire, l'info du jour, la majorité municipale rennaise divisée sur l'implantation d'une usine Safran près de Rennes. Deux interviews, d'abord pour annoncer le prochain café de l'espace des sciences sur le thème du plastique, puis pour parler avortement et droits des femmes avec le planning familial d'Ille-et-Vilaine. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, et puis la recommandation du jour, deux expositions d'artistes porteurs d'autisme. Bienvenue dans l'Arène. Allez, comme chaque jour, on commence l'émission avec l'info du jour, en tout cas une parmi d'autres que j'ai sélectionnée dans ce qui se dit dans les médias locaux. Aujourd'hui, les élus de la majorité municipale rennaise sont divisés après l'annonce de l'implantation d'un site du groupe Safran à L'Ajanais. L'Ajanais, c'est un site industriel à Chartres de Bretagne, longtemps dédié à l'industrie automobile. Le groupe Stellantis, ex-PSA, y est d'ailleurs toujours présent, malgré une perte importante d'emplois. Et alors, Rennes Métropole et la région Bretagne, lui, ont acheté des terrains à ce groupe Stellantis dans l'objectif de faire émerger un pôle d'excellence industrielle. La semaine dernière, mercredi 28 février, le groupe Safran, qui est spécialisé dans l'aéronautique, annonce avoir choisi Rennes et L'Ajanais pour sa nouvelle usine de production de pièces pour des moteurs d'avion dans l'aviation civile, mais aussi militaire. L'usine, une fonderie, devrait ouvrir d'ici 2027 sur une surface de 6 hectares et emploiera 200 personnes. Les réactions politiques n'ont pas tardé, avec des élus écologistes verts de rage, c'est le titre du média 20 minutes. Ils ont découvert, ces élus, le projet la veille de l'annonce. Un coup de force pour le vice-président à Rennes Métropole, Laurent Hamon, et surtout un sentiment de déception. Les Verts auraient souhaité que le site soit dédié aux mobilités décarbonées, secteur dont ne relève pas sa Safran à leurs yeux, accusé au passage de greenwashing sur des, je cite, soi-disant moteurs décarbonés. Les communistes se montrent, eux, favorables à l'arrivée de Safran près de Rennes. Le groupe Génération semble, lui, partagé. Certes, le rythme de croissance du secteur aéronautique est incompatible avec le respect des accords de Paris et la préservation d'une planète vivable et vivante, mais on est loin du cas de l'usine Bridor à Liffré. Le regret porte surtout sur l'absence d'un débat de fond, d'une implantation découverte par voie de presse. Ce sont les mots du vice-président, toujours à Rennes Métropole, Tristan Lahaye. Allez, après cette info, on passe à la première interview du jour. Stéphane Bruzeau, bonjour. Je vous présente, vous êtes enseignant-chercheur à l'IRDL, l'Institut de Recherche du Puy de l'Aume, qui est basé à Lorient, dans le Morbihan. Et vous êtes l'invité du prochain Café de l'Espace des Sciences. Rendez-vous au Café des Champs Libres, ici à Rennes, mercredi 6 mars à 18h30. Cet institut dans lequel vous travaillez, on le représente en quelques mots. Quelles sont ses équipes et puis ses missions ?
Oui, alors à l'Institut de Recherche du Puy de l'Aume, IRDL, on s'intéresse en fait à concevoir des matériaux, mais des matériaux avec des impacts environnementaux qui vont être les plus modérés possibles. Donc, en d'autres termes, on fait ce qu'on appelle aujourd'hui de l'éco-conception de matériaux, appliquée à tout type de matériaux, matériaux métalliques, matériaux cimentaires, matériaux composites et matériaux plastiques, en particulier, puisque moi j'anime une équipe au sein de ce laboratoire-là, où on essaie d'éco-concevoir des plastiques, donc essayer de proposer des plastiques qui vont être plus éco-responsables, qui vont être plus éthiquement acceptables que tous les plastiques commercialisés depuis maintenant 50 ou 60 ans.
Donc ça nous amène au sujet du prochain Café de l'Espace des Sciences qui sera consacré au plastique et à l'histoire d'une relation toxique. Si vous êtes la bonne personne pour en parler, c'est que vous êtes un spécialiste des polymères. Comment on explique ce que c'est une molécule qui, dans sa version artificielle en tout cas, fait justement partie de la composition des plastiques, on peut le dire comme ça ?
Oui, c'est ce qu'on appelle un polymère. En fait, c'est une grosse molécule et c'est le composant principal d'une matière plastique. C'est ce qui va conférer au plastique toutes ses caractéristiques en termes de propriétés, caractéristiques mécaniques, élasticité par exemple, caractéristiques thermiques, le fait de pouvoir effectivement résister à certaines températures, ce qu'on appelle aussi des propriétés barrières, qui sont des propriétés indispensables dès lors qu'on travaille dans l'emballage en particulier. Les caractéristiques barrières d'une matière plastique, c'est sa faculté à être imperméable vis-à-vis de l'eau, par exemple, ou de l'oxygène, qui pourrait détériorer les aliments, par exemple, qui se trouvent à l'intérieur du plastique, de l'emballage. Et donc, le plastique est essentiellement constitué d'une matrice qu'on appelle polymère, matrice à laquelle sont ajoutés différents additifs, ce qu'on appelle des plastifiants, ce qu'on appelle par exemple des pigments pour apporter une couleur, des stabilisants, donc différents adjuvants qui vont formuler le plastique. Mais les principales caractéristiques sont effectivement déterminées par la nature du polymère qui compose ce plastique-là.
Il faut quand même préciser que les polymères, il en existe aussi des organiques. Ça veut dire que la cellulose dans le bois ou dans le papier ou le collagène qu'on retrouve dans le cuir, ce sont aussi des polymères. Mais pour ce qui est des polymères artificiels, ils sont eux dérivés des hydrocarbures.
C'est ça. Alors aujourd'hui, la très grande majorité des plastiques sont d'origine pétrochimique, fabriqués donc à partir de matières premières issues du pétrole. On estime qu'aujourd'hui, 99% des plastiques présents sur le marché sont d'origine pétrochimique. Et le 1%, les quelques pourcents, en émergence aujourd'hui, ce sont des polymères qu'on qualifie de manière générale de biosourcés ou de biobasés, c'est-à-dire des polymères qui sont obtenus à partir d'une matière première renouvelable, c'est-à-dire issue de la biomasse en particulier, de la biomasse soit végétale, soit animale. Vous avez cité la cellulose, on pourrait citer aussi l'amidon, on pourrait citer aussi les polyhydroxyalcanoates sur lesquels je travaille, puisque ces polymères-là sont obtenus à la fois à partir d'une biomasse animale et d'une biomasse végétale, puisque ce sont des processus de fermentation qui permettent de produire ces matériaux-là.
Le résultat aujourd'hui, c'est que les polymères, c'est l'un des éléments essentiels à beaucoup d'objets qui nous entourent. L'intérêt d'en utiliser pour un industriel, vous l'avez déjà évoqué, il est en fait pluriel. C'est léger, c'est souple, c'est stable, en tout cas à température modérée. Ça a une caractéristique isolante, que ce soit thermique ou électrique. Le développement industriel, il date d'après la Seconde Guerre mondiale. Depuis quand est-ce qu'on réalise que c'est un problème ?
Oui, c'est ça, l'explosion des plastiques, elle date des années 60-70. Toutes les courbes qui montrent la production mondiale de plastique commencent effectivement à augmenter de manière exponentielle à partir des années 60-70. Avec beaucoup d'intérêt des plastiques, et vous en avez rappelé quelques-uns. Me semble-t-il, le principal intérêt des plastiques, c'est aussi leur capacité à nous protéger d'attaques de micro-organismes, de virus ou de bactéries, par exemple, c'est-à-dire de protéger de différentes contaminations, soit pour le secteur alimentaire, soit pour le secteur biomédical aussi. C'est une des raisons essentielles aujourd'hui qui fait qu'on ne pourra jamais se passer totalement de plastique en particulier. Après, vous faites allusion effectivement à ce questionnement autour de la prolifération des plastiques et de leurs conséquences sur en termes de pollution environnementale. Bon, on commence à y prendre garde déjà depuis quelques années quand même, quoi, 5-10 ans, où notamment de nombreuses ONG ont effectivement alerté l'ensemble des sociétés sur les dangers, notamment en termes de pollution environnementale, évidemment, avec tous les dégâts visuels qu'on peut chacun d'entre nous observer dès lors qu'on se promène sur terre ou en mer, mais avec aussi des conséquences sur les écosystèmes qui peuvent s'avérer à terme assez dramatiques, effectivement, des impacts qui sont aujourd'hui encore assez méconnus, mais sur lesquels nombre de scientifiques travaillent justement pour essayer d'évaluer quels pourraient être les impacts potentiels en termes de santé humaine, par exemple.
Je vais lire les mots de présentation du Café de l'Espace des Sciences qui est donc organisé mercredi 6 mars à 18h30 en votre compagnie. Jetez un œil autour de vous et vous verrez du plastique partout. Plus de 600 millions de tonnes de plastique pourraient être produites en 2025 et aucun scénario n'envisage une baisse de la consommation. Retour sur une invention dont nous avons perdu le contrôle, voilà pour la présentation. Le problème principal, c'est donc celui du plastique en tant que déchet qui entraîne, vous l'avez dit, une pollution de l'eau et des sols. Ce qui est peut-être moins connu ou en tout cas moins perçu par le grand public que la pollution de l'eau. Le problème central, c'est aujourd'hui le recyclage.
Alors, je dirais plutôt que le problème central, c'est surtout la collecte des plastiques. Éviter notamment qu'ils se disséminent dans l'environnement. Et le premier point crucial me semble-t-il, pour tenter de réguler et de limiter cette pollution-là, c'est d'abord la collecte. C'est faire prendre conscience à l'ensemble des populations, et c'est ce qui fait, à mon sens, la principale difficulté, c'est l'ensemble des populations du monde entier. On voit que dès qu'on voyage un petit peu, ce problème de la collecte, il est crucial. C'est comment on peut sensibiliser, faire prendre conscience aux différentes populations qui vivent sur cette Terre, comment on peut leur faire prendre conscience pour qu'ils puissent collecter, c'est-à-dire qu'ils puissent déjà moins utiliser de plastique, mais lorsqu'ils en utilisent encore, comment on peut effectivement collecter ces plastiques-là en fin d'usage pour pouvoir, dans un deuxième temps, évidemment, les valoriser. Et c'est là où vous avez cité le recyclage, par exemple. Effectivement, c'est une voie de valorisation. Dès lors qu'on a collecté ces plastiques-là, on peut imaginer les valoriser par recyclage pour en faire de nouveaux matériaux, de nouveaux plastiques qui pourront servir aussi à d'autres secteurs. On connaît très bien l'exemple de la bouteille plastique fabriquée dans un plastique qui s'appelle le PET, et que si on la collecte, on peut la traiter pour refabriquer des fibres textiles, par exemple, qui pourront servir à la conception de vestes polaires, notamment. Donc, il y a des exemples aujourd'hui concrets qui existent de recyclabilité des plastiques, mais le point crucial, c'est la collecte. Et ensuite, effectivement, c'est aussi la spécificité des plastiques qui doivent être conçus, qui devraient être conçus pour pouvoir être recyclés ensuite.
Ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ce n'est pas le cas ?
C'est fait, partiellement. Aujourd'hui, les chiffres de Citeo, qui est l'organisme en fait en charge à l'échelle de la France pour évaluer ce marché du recyclage, tous les matériaux au sens large du terme, mais aujourd'hui, les derniers chiffres publiés en 2022 font état de 30% seulement de plastique recyclé sur la quantité de plastique collectée. Donc, on en recycle effectivement un certain nombre, 30%, aujourd'hui, mais effectivement, ces chiffres-là doivent être absolument améliorés dans les années qui viennent pour essayer d'en valoriser encore plus que ce qui est fait aujourd'hui. C'est fait, les chiffres augmentent chaque année, tout doucement, la tendance est plutôt favorable, mais effectivement, c'est loin d'être parfait.
Et puisque le problème est mondial, je complète avec ce chiffre, donc un taux de recyclage de 9% à l'échelle mondiale. Pour la France, on est plutôt aux alentours de 24%. Il y a aussi le sujet de l'impact du plastique sur notre santé. Des chercheurs travaillent dessus, vous l'avez dit, avec un intérêt pour ces micro- et nanoplastiques qu'on ingère sans le savoir au quotidien. Votre venue là à Rennes, à l'Espace des Sciences cette semaine, il faut dire qu'elle fait en fait suite à la parution d'un numéro de Science Ouest qui était consacré au plastique en janvier. Science Ouest, c'est le magazine de l'Espace des Sciences. Il est aussi évoqué dans ce magazine la préparation d'un traité international sous l'égide de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. La mission, c'est de mettre fin à la pollution plastique et le défi semble immense. On devrait avoir des nouvelles d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous pensez que des choses concrètes vont sortir de ce traité international qui est en préparation ?
Il se trouve qu'effectivement, je suis un petit peu les discussions parce que j'ai quelques collègues qui ont été mandatés pour faire partie du groupe d'experts. Oui, il en sortira sûrement quelque chose. Bon, aujourd'hui, on peut pas affirmer effectivement les mesures concrètes qui seront prises, mais quoi qu'il en soit, la priorité actuellement, c'est surtout d'insister sur la réduction des plastiques. On connaît bien la règle des 3 R dans le cas des plastiques en particulier pour réduire, réutiliser, recycler. Et la France en particulier pousse très très fortement le 1er R qui est la réduction des plastiques, voire le refus de l'usage de certains plastiques dès lors que effectivement ces plastiques-là ne sont pas indispensables. Et oui, on peut espérer qu'il y ait une limitation et une interdiction d'un certain nombre de plastiques. Alors, c'est déjà fait à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe. Il y a déjà des mesures concrètes. La première mesure qui avait été prise date de juillet 2016, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de plastiques qui sont désormais interdits en France et en Europe pour un certain nombre d'applications, ce qu'on appelle notamment des single-use plastics, des plastiques à usage unique, pour lesquels la France d'abord et l'Europe ensuite ont légiféré, effectivement, pour en interdire un certain nombre. Donc l'idée de ce traité international, c'est de pouvoir élargir ces mesures à l'échelle du monde, en prenant compte aussi des spécificités liées au contexte de chacun des pays qui composent justement cette coalition.
Et pour atteindre cet objectif-là de mettre fin à la pollution plastique, objectif ambitieux, vous avez évoqué la réduction globale en fait, de consommation de plastique dans nos objets, notamment du quotidien. Et puis il y a aussi ce sujet d'alternative au plastique sur lequel vous planchez, puisque vous travaillez avec d'autres sur la conception de biopolymères, en gros des polymères qui sont conçus à partir d'organismes marins microscopiques et qui ont l'intérêt d'être biodégradables.
Oui, c'est ça, c'est un peu notre expertise au laboratoire, où depuis déjà une quinzaine d'années, on travaille à éco-concevoir des plastiques, et donc développer des plastiques qui sont à la fois biosourcés, pour envoyer à ce que je disais en début d'interview, c'est-à-dire fabriqués à partir de biomasse végétale et animale, donc lorsqu'on associe des micro-organismes, des bactéries, par exemple, des bactéries marines, qu'on a pu prélever au large des côtes bretonnes, eh bien, en les associant avec des matières carbonées, on est capable de mettre en place des processus de fermentation biologique qui vont permettre la production de ces plastiques-là. Donc, ça s'appelle des PHA, des polyhydroxyalkanoates, qui ont la particularité d'être biosourcés, donc, mais aussi rapidement biodégradables dans les milieux naturels. On a fait de nombreux tests pour vérifier effectivement leur capacité à se biodégrader en milieu marin en particulier, et ce sont des polymères qui présentent des vitesses de biodégradabilité qui sont assez spectaculaires, similaires à ce qu'on peut observer pour ceux obtenus à partir de cellulose. Donc on a des matériaux qui, en termes de fin de vie, sont compétitifs vis-à-vis des matériaux à base de papier.
Il faut préciser que sur l'usage de ces nouveaux polymères, on les verra pas partout dans le futur, mais avant tout avec un usage justement dans le milieu côtier, peut-être dans le secteur de la pêche.
En particulier, alors moi je promeux ces matériaux-là pour des usages effectivement qui le justifient. Donc pour des usages pour lesquels le risque est très élevé qu'ils se retrouvent dans l'environnement. Donc quels sont ces usages? Vous avez la pêche, effectivement, vous avez raison, mais c'est de manière générale tous les usages pour lesquels les plastiques sont exposés directement à l'environnement. Donc ça peut être des plastiques pour le milieu de l'agriculture, pour la pêche, et le secteur dérivé, l'ostréiculture, la conchyliculture, et puis effectivement des plastiques qu'on ne pourrait pas recycler, par exemple, et qui pourraient être envoyés via des processus de compostage dans des filières de compost industriel ou de compost domestique. Donc, moi, je ne vends pas ces polymères-là à tort et à travers pour n'importe quel usage, mais pour des usages qui sont bien réfléchis à l'avance, avec effectivement une réelle pertinence de pouvoir les valoriser, de profiter de leur capacité à se biodégrader en fin d'usage, en fonction des milieux naturels dans lesquels ils sont utilisés. Pour moi, ce que j'aime bien, c'est faire réfléchir les gens, surtout, quoi, sur leur rapport au plastique. Parce qu'on voit, quand on discute avec des gens de la société, effectivement, il y a beaucoup aussi de fausses vérités qu'il faut essayer de casser. Il y a beaucoup d'idées préconçues. Les idées préconçues, c'est surtout, effectivement, une tendance qui a été fortement impulsée par les ONG, mais par les médias aussi, quoi. C'est cette question, effectivement, d'une société sans plastique, qui me paraît inenvisageable, quoi. Donc, moi, j'essaie, effectivement, de tenir un discours qui est assez équilibré, assez pragmatique, entre, effectivement, une prise de conscience nécessaire des impacts négatifs à propos de la fin de vie des plastiques. Ça, c'est une évidence. Il faut pas nier des évidences. Mais en revanche, il faut aussi admettre et accepter que les plastiques restent et resteront indispensables à nos usages, y compris en emballage, mais aussi dans bien d'autres secteurs. Donc il ne s'agit pas de bannir les plastiques, c'est effectivement un but vers lequel on peut tendre, mais demain, dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on aura toujours des emballages en plastique, et en particulier, mais pas que, il y a aussi les plastiques dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans le nautisme, dans le biomédical, l'agriculture, la pêche, vous en avez parlé, donc si vous voulez, bon, il faut essayer un petit peu d'élargir son champ de vision, parce que les gens ont souvent tendance à ne raisonner à propos du plastique, que sur des sujets emballage. Effectivement, l'emballage, c'est le premier secteur d'usage. 40% des plastiques sont destinés au secteur de l'emballage, mais ça veut dire aussi que 60% des plastiques sont destinés à d'autres usages. Donc, j'essaie d'éviter le plastique bashing, parce que ça nuit beaucoup, justement, à la recherche d'innovation, parce qu'il y a encore et toujours besoin d'innovation sur les plastiques, et qu'il ne faut pas tuer l'innovation, quoi.
Pour en apprendre plus sur ce sujet, le mieux c'est de venir au prochain Café de l'Espace des Sciences qui est organisé mercredi 6 mars à 18h30 au Café des Champs Libres à Rennes. Vous serez l'invité de ce rendez-vous, Stéphane Bruzeau. Vous êtes enseignant-chercheur à l'IRDL, l'Institut de Recherche du Puy de l'Aume qui est basé à Lorient dans le Morbihan. C'est un rendez-vous qui est gratuit et un podcast est ensuite à retrouver en ligne sur le site espace-science.org. Merci beaucoup Stéphane.
Toi, tu rêves de la réunion de Corfou, te jette à l'eau dans ton gilet, ta bruit couleur souffle, tu voudrais franchir le gouffre. sortir le désir de ton îlet. Loin de l'abri côtier, j'habite mes abysses répétitives dans la banquise. J'attends le dégel, j'ai perdu le sens des échelles, si esselées sous les marquises. Bornés au minimum de l'archipel, pêcheurs et âmes sont déboussolés. Dans les entrailles de nos appartipels, on pensait plutôt être bien isolés.
De France avec le morceau L'Archipel sur Canal B, c'était une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur, et tirée de l'album Langage Ment. C'est sorti le 26 janvier sur le label des disques Papillon. Un premier disque pour ce projet collectif mené par un certain Rémi Nation et qui explore les mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X qui agitent l'hexagone. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B, à écouter du lundi au vendredi sur le 94.0 mais aussi en ligne sur canalb.fr. Une émission qui a déserté les réseaux sociaux depuis septembre 2023, qui s'en porte plutôt bien. Depuis, une newsletter a été lancée, le courrier de la Reine. C'est chaque vendredi un résumé de ce qui s'est raconté dans cette émission. Si vous souhaitez vous y abonner, rien de plus simple, vous pouvez me le demander poliment par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Allez, on poursuit cette émission avec une deuxième interview. Bleuhen et Juliette, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes toutes les deux membres du planning familial d'Ille-et-Vilaine. Bleuhen, vous êtes l'une des coprésidentes et Juliette, vous y êtes bénévole. Ensemble, on prend un petit peu d'avance pour annoncer la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est vendredi 8 mars. On commence par redire combien vous êtes dans les équipes. Il y a des salariés et des bénévoles pour faire vivre l'émission du planning.
Oui, le Planning Familial 35, c'est une association féministe et d'éducation populaire. Et en Ille-et-Vilaine, on a une antenne à Rennes et une antenne à Saint-Malo. Et donc, il y a 27 salariés, à la fois des salariés, des médecins, des sages-femmes et des professionnels plutôt de l'écoute. Voilà. Et après, on a aussi des bénévoles, donc à la fois sur l'antenne de Rennes et sur l'antenne de Saint-Malo.
Et parmi les professionnels là, que vous évoquez, on trouve aussi des psychologues ou encore des conseillères conjugales et familiales. Juliette, vous êtes bénévole depuis quand et puis qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre le planning familial ?
Moi, je suis bénévole depuis 3 ans maintenant, depuis 2020. Ce qui m'a motivé à rejoindre le planning, c'est vraiment de faire partie d'une grande asso historique féministe pour continuer à faire avancer les différents combats, notamment le droit à l'avortement.
De quelle façon est-ce que vous mobilisez ? Alors, il faut redire qu'il se passe plein de choses au planning familial. Il y a des groupes de parole, il y a de la formation, il y a des événements. Où est-ce que vous avez trouvé votre place en 3 ans ?
Alors, il y a plein d'actions possibles qu'on peut faire en tant que bénévole au planning à côté de l'activité salariée qui est plus connue du grand public. Mais avec les bénévoles, on fait régulièrement des réunions militantes où on organise différentes actions comme des projections de films, des stands militants, des actions type manifestation, rassemblement, mais aussi des petites animations qu'on peut proposer même en tant que bénévole. Donc voilà, moi j'ai vraiment trouvé ma place plus sur le sujet de l'avortement.
Bleuen, vous êtes aussi bénévole, mais donc engagée au sein d'un conseil d'administration, puisque vous êtes la coprésidente du planning familial d'Ille-et-Vilaine. Vous y êtes arrivée comment dans cette association ?
J'étais dans des études sur des questions de santé, et donc voilà, je me posais beaucoup de questions sur la question de l'accès aux soins des femmes, sur les questions de contraception, d'IVG, et donc je suis arrivée par un stage au planning familial. Voilà, et donc j'ai découvert encore plus que c'était le féminisme et à quel point c'était important de s'engager. Et donc j'ai fini par me proposer en tant que coprésidente au sein du conseil d'administration du planning.
Il y a eu un vrai renouvellement des générations chez les bénévoles du planning familial, mais il y a encore des personnes mobilisées depuis très longtemps, et notamment dans le combat des années 70, etc., qui sont toujours dans l'association aujourd'hui. Il y a un mélange des générations.
On essaye, on constate à Rennes qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, en tout cas, qui souhaitent militer au sein du planning familial. Mais on a quand même toujours quelques bénévoles qui ont été, Juliette en a parlé, mais au MLAC, donc Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et donc on essaye, en tout cas, ça nous tient à cœur de rappeler que le planning familial, c'est une association féministe aussi d'actualité, hein, qui est toujours sur les luttes, notamment les questions... LGBTI+, etc., mais aussi une association historique, et donc on trouve ça important d'avoir un peu de variété dans les bénévoles et dans les salariés.
Et pour info, le planning familial d'Ille-et-Vilaine a son fanzine dont le deuxième numéro est sorti au début de l'année et dans lequel on retrouve le témoignage de militants de longue date au sein du planning familial. C'est une association qui a plus de 50 ans, le planning familial, qui, on le dit, est agréé centre en santé sexuelle comme d'autres structures sur le territoire. Alors, liberté, égalité, sexualité, c'est la devise du planning familial qui mène différentes actions. La plus centrale quand même, ça reste les consultations avec une équipe pluridisciplinaire à Rennes, mais aussi à Saint-Malo. C'est vraiment le cœur d'activité, on peut le dire comme ça, Bleuen ?
C'est une partie de notre activité. Après, là, on parle du centre de santé sexuelle, mais on a aussi un autre agrément EVARS. Donc, c'est plus la partie écoute. Souvent, on connaît le planning pour les deux spécificités. Donc, à la fois le côté médical, donc centre de santé sexuelle, et à la fois le côté écoute.
Qu'est-ce qui amène le plus les personnes, les patientes vers le planning familial ? Le planning familial est identifié sur le sujet de l'avortement, mais ça dépasse bien évidemment cette question.
Alors, il y a à la fois le sujet de l'avortement, mais aussi toutes les questions de contraception et d'infections sexuellement transmissibles. On travaille aussi contre toutes les formes de discrimination. Donc, c'est vrai qu'on a aussi toutes les questions autour de l'orientation sexuelle, l'identité de genre, et aussi contre toutes les formes de violence. Donc, on constate qu'on a de plus en plus d'accueil sur les questions de violence.
J'ai évidemment envie de vous faire réagir à l'entrée dans la Constitution lundi 4 mars de la liberté garantie pour les femmes de recourir à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Le planning familial a poussé en sens avec d'autres associations féministes. Un moment important, même s'il faut le dire, il y a encore du chemin avant un accès égal pour toutes à l'IVG, on le résume comme ça. Juliette ?
Oui, alors on s'est beaucoup réjoui, bien sûr, de l'aboutissement des efforts du planning avec d'autres associations et collectifs et des députés de gauche alliés de cette entrée dans la Constitution de l'avortement. Donc hier, à l'occasion d'un congrès qui réunissait l'Assemblée nationale et le Sénat, on pense à toutes les luttes passées qui ont mené à ce moment. On pense au MLAC, au MLF.
MLF, c'est le mouvement de libération des femmes.
Aux personnes qui ont avorté clandestinement et à toutes les personnes qui ont souffert et qui souffrent encore. Donc c'est un moment vraiment où on se réjouit, avec quelques réserves cependant sur certains détails dans la formulation de la loi constitutionnelle, notamment sur la question des personnes trans, où dans la formulation actuelle du texte, il est question de la liberté de la femme à interrompre une grossesse. Donc déjà, on aurait préféré qu'il soit question d'un droit plutôt que d'une liberté, et aussi qu'on n'essentialise pas les femmes cis déjà à leur fonction reproductrice avec le terme la femme, mais aussi qu'on parle plutôt de personnes qui peuvent se retrouver enceintes, ce qui inclurait les personnes trans, les hommes trans et les personnes non binaires.
Les hommes trans, on le redit, sont des personnes assignées femmes à la naissance et qui ont transitionné pour se vivre et être considérées par la société en tant qu'hommes. Juste pour que ce soit bien réexpliqué aux auditeurs qui découvrent le sujet.
Oui, c'est ça. Donc en fait, il y a des personnes qui peuvent être enceintes, qui ont besoin d'avoir recours à l'avortement et qui ne sont pas des femmes. Donc ça inclut les hommes trans et les personnes non binaires.
L'association Nous Toutes 35, le collectif, alertait très récemment sur le fait que l'accès à l'IVG reste compliqué sur certains territoires et pour certaines personnes. 130 centres d'IVG ont fermé en 15 ans en France. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation ici en Bretagne et en Ille-et-Vilaine ? Je pense que le territoire brétilien a des équipes compétentes pour mener des IVG. C'est pas le cas partout en Bretagne. Bleuen ?
Oui, c'est ce qu'on constate. Alors nous, on a plutôt de la chance sur le territoire rennais, en tout cas, d'être plutôt bien l'outil entre le planning familial, le CHU et les médecins aussi libéraux qui peuvent donner certaines pilules abortives. Mais on voit bien que suivant les territoires, c'est pas toujours le cas et qu'il y a vraiment des inégalités, notamment dans le centre-Bretagne où il y a différents endroits qui sont menacés ou alors qui ont été fermés. Et on voit bien même sur l'Ille-et-Vilaine qu'il y a aussi des différences entre, par exemple, entre Saint-Malo et Rennes où donc le délai d'avortement a été allongé, mais c'est vrai que dans la pratique, il y a aussi certains médecins qui ne sont pas encore formés à la méthode au-dessus des 14 semaines.
Donc l'IVG chirurgical ?
Oui. Enfin, l'IVG chirurgical au-dessus des 14 semaines, en fait, c'est différentes méthodes aussi.
En fait, le délai, il a été allongé suite à la crise du Covid et ça a été prolongé à 16 semaines. Sauf qu'on constate que le personnel soignant n'est pas encore formé à pratiquer une IVG à 16 semaines. Donc là aussi, c'est un problème de moyens et on se rend compte que sur le terrain, il n'y a pas énormément d'hôpitaux qui pratiquent l'IVG à 16 semaines.
Voilà, donc ce qu'on constate, c'est que alors c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, et donc c'est notamment une volonté au sein du planning familial 35. Il y a un groupe de bénévoles qui a envie de faire un état des lieux de l'IVG en Bretagne. Donc c'est un des projets qu'on a à moyen terme, mais en tout cas on constate qu'il y a beaucoup d'inégalités et qu'il y a un manque de moyens sur les questions d'accès à l'IVG.
J'ai découvert dans le communiqué de presse de Nous Toutes 35, donc collectif féministe, qui appelle d'ailleurs à la mobilisation, on le dit, vendredi 8 mars, ici à Rennes, à 15h30. Je découvre que dans les Côtes-d'Armor, il n'y a que 2 professionnels qui pratiquent des IVG contre 30 en Ille-et-Vilaine. Et qui ne pratiquent pas donc d'IVG chirurgicale au-delà de 14 semaines. On parle des moyens accordés par les pouvoirs publics à l'accès à l'IVG. C'est peut-être le moment où on dit que votre appareil d'échographie au planning familial date des années 90 et que vous avez besoin d'aide pour en acquérir un nouveau. Ça, c'est hyper concret, en fait. C'est une question matérielle, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un appel à dons, voilà, pour les personnes qui veulent nous soutenir. Donc n'hésitez pas à aller voir sur nos réseaux.
Il reste 26 jours pour participer et pour atteindre les 10 000 euros pour que vous puissiez acquérir ce nouvel appareil. On continue quand même sur le sujet de l'IVG. L'opposition politique à l'inscription de l'IVG dans la Constitution n'a eu de cesse de répéter que l'IVG n'est pas en danger en France. Vous observez pourtant au planning familial des femmes qui se retrouvent hors délai et qui n'ont d'autre choix que d'avorter ailleurs en Europe, notamment en Espagne et aux Pays-Bas. Est-ce que ça, c'est en lien avec des difficultés d'accès en Ille-et-Vilaine notamment ?
Il peut y avoir différentes raisons en fait pour les questions des. Donc on accueille des personnes qui sont en délai dépassé au sein du planning familial 35. On a mis en place une cagnotte depuis 2 ans à peu près. Donc on peut les accompagner parce que avorter à l'étranger, ça coûte beaucoup d'argent.
Ça va de 800 à 2200 euros.
Nous, ce qu'on constate, c'est alors soit des personnes qui découvrent tardivement leur grossesse, soit des personnes qui sont ambivalentes sur leur choix. Donc par exemple, parfois pour des questions de violence en fait, hein, qui ne souhaitent plus poursuivre les grossesses. Et évidemment qu'il y a aussi la question de l'accès à l'avortement que nous on constate moins, mais qu'on sait que dans d'autres plannings familiaux, il suffit qu'entre les délais de rendez-vous soient longs, etc. Et on peut vite se retrouver à la limite en fait du délai. Donc nous on rappelle quand même qu'au planning familial on défend le fait qu'il n'y ait pas de délai pour pouvoir avorter en France.
Pour accéder à une IVG en Bretagne, on peut ajouter que le délai il varie entre 8 et 11 jours pour avoir un rendez-vous. C'est l'un des délais les plus longs de France. C'est une 50aine de personnes qui chaque année se tournent vers vous et qui se trouvent être hors délai pour pratiquer une IVG. C'est un chiffre qui reste stable.
C'est un chiffre qui évolue vraiment en fonction des périodes. Aussi, on avait pas mal de réorientations de personnes en Bretagne parce qu'il n'y avait pas, cette cagnotte délai dépassée sur d'autres territoires. Là, de plus en plus, par exemple, dans le 56, il y en a une qui a été mise en, enfin, dans le Morbihan, il y en a une qui a été mise en place. Donc ça dépend un peu des périodes. Et en tout cas, sur les chiffres qu'on. Alors, il y a peut-être 50 demandes, mais aussi il y a des. Pour diverses raisons, parfois finalement, les personnes soit trouvent l'argent ailleurs, parce que nous, l'idée, c'est vraiment que ça soit pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, on garantit d'abord qu'elles aient pu regarder autour. Et donc, on a accompagné une dizaine de personnes l'année dernière, par exemple.
Cette caisse de solidarité, elle est à retrouver en ligne sur la plateforme helloasso.com. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est enfin pour parler de votre participation à la programmation de Rennes Ville et Métropole dans le prolongement de la journée du 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes dans le monde. Jusqu'au 21 mars, je crois que j'ai compté près de 70 propositions dans la région rennaise sous forme de rencontres, de spectacles, de visites ou encore d'expositions. Et on vous retrouvera le planning familial. Tout d'abord, évidemment, en manifestation vendredi, vous y serez.
Oui.
Donc à partir de 15h30. Aujourd'hui, là, en 2024, quels sont les combats qui mobilisent les militants, militantes féministes en Ille-et-Vilaine ? Vous faites partie d'une interorganisation qui est donc mobilisée à la fin de la semaine. Il y a surtout deux sujets, on va le dire comme ça, qui vous inquiètent et qui vous mobilisent aujourd'hui.
Au niveau de l'interorga féministe, les sujets en tout cas qui sont ressortis pour la prise de parole pour le 8 mars, c'est notamment la question de la loi asile-immigration. On est assez inquiète par rapport à la question des personnes migrantes, et c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et qui tient à cœur de nombreuses féministes rennaises. Et donc on souhaiterait l'abrogation de cette loi. Et aussi la question de l'hébergement d'urgence. Donc en Ille-et-Vilaine, il y a eu 200 places qui ont été retirées l'année dernière des hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences. Et donc c'est une vraie question qu'on a sur les moyens que donne l'État pour l'hébergement d'urgence des personnes victimes de violences.
Ça, ce sont les combats au cœur de la mobilisation du vendredi 8 mars après-midi ici à Rennes. Et le soir, vous serez dans un bar-restaurant pour une proposition plutôt festive, on va le dire comme ça.
Oui, donc on sera à la manifestation à 15h à Charles de Gaulle vendredi. Et avant, il y a des stands aussi sur la place Charles de Gaulle pour celles et ceux qui veulent venir nous voir. Donc on aura un stand entre 13h et 15h sur la place. Et le soir, on sera pour un drag show au bar La Cavale. Donc il y aura 6 artistes qui vont performer. Et l'idée, c'est que ça soit à prix libre pour remplir la cagnotte IVG délai dépassé.
Et on écoute un extrait d'un reportage qui a été diffusé il y a bientôt 2 ans sur cette antenne, où on entendait 2 des artistes à voir sur scène samedi prochain à La Cavale.
Alors moi, je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans et je suis metteur en scène, comédien et chanteur, artiste en gros quoi. Et depuis 3 ans, je fais du drag sous le personnage de Darling Millie.
Moi, c'est Anne-Marie Condom, donc je suis une drag queen rennaise depuis maintenant 4 ans.
En fait, c'est un drag que moi j'interprète très féminin, en fait, dans les codes de la féminité, en tout cas, hein, on s'entend. Mais du coup, des vieux codes de la féminité des années 50-60, un peu la housewife, un peu la maman, la bonne maman, voilà, donc très propre d'apparence. Et après, une fois que c'est un moyen aussi de briser la glace simplement avec des publics non initiés, et puis une fois qu'en fait elle est adoptée, bah c'est plus facile d'être libre dans ce qu'elle dit. Donc j'aime bien dire que c'est une drague de gauche pour un public de droite, en fait.
Alors Anne-Marie Condom, elle est un petit peu elle fait un peu la mijaurée, genre elle est un petit peu prude et tout, mais en fait elle aime bien se donner un air sexy quand même, donc elle va toujours chercher des chansons ou des histoires avec plein de double sens, des choses qu'elle peut surjouer vraiment là-dessus. Donc elle aime bien aguicher. Après, je suis pas sûr qu'elle passerait trop à l'acte, mais elle aime bien aguicher quand même. Et puis elle a ce faux côté innocent, justement, où elle a tendance à prendre le dessus. Et puis en fait, non, parce que quand on écoute ce qu'elle dit, elle va envoyer des pics aussi très très régulièrement. Donc c'est assez drôle parce qu'elle est. C'est un peu elle-même, c'est déjà une image un peu double quand même du truc.
C'est quoi pour vous la définition de drag queen et même la définition de drag de manière générale ?
Alors, je pense qu'elle est un petit peu personnelle à chacun. Donc effectivement, pour moi, je pense qu'une drag queen, c'est quelqu'un... Alors, une drag queen, déjà. C'est quelqu'un qui va jouer un petit peu sur les codes du genre, et notamment du genre féminin, qui va soit les accentuer, soit les mélanger, en faire quelque chose de très personnel, finalement.
Pour moi, le drag, c'est une performance de genre. Du coup, moi, personnellement, je performe le genre féminin. Donc sur scène, je vais avoir une apparence féminine. Parfois, ça change de mon humeur. Mais par exemple, en fait, dans la vie de tous les jours, moi, en civil, je performe un genre masculin parce que je me considère comme homme. Mais sur scène, c'est féminin, quoi. Le drag, c'est aussi du cinéma ou du théâtre. Du théâtre en 4D. Sur scène, un comédien, il va jouer sa pièce, il va jouer son rôle, il va performer son rôle. Mais en sortant et en descendant de scène, il va lâcher son rôle sur scène et il va redevenir civil. Alors qu'une drag ou un drag va, en descendant de scène, rester dans son personnage. Donc ça va se poursuivre jusqu'à ce qu'il enlève tout le plâtre qu'il a sur le visage.
Ça se passe à la Cavale, vendredi 8 mars à 20h30, pour une soirée drag show, histoire de mettre en lumière les convergences entre lutte queer et lutte féministe. Et enfin, samedi 9 mars, là c'est le temps fort de la programmation, ça se passe place de la mairie de 13 à 18h, avec vous, mais aussi d'autres partenaires, donc durant tout un après-midi, pour parler droits des femmes auprès du public. C'est un moment de rencontre en fait avec le grand public.
Oui, c'est ça, deux fois dans l'année. Enfin, nous, on organise, on pilote en tout cas l'organisation sur la place de la mairie pour le 25 novembre. Et donc là, c'est le CIDFF qui pilote cette journée. Donc l'idée, c'est vraiment d'être en lien avec le grand public, de faire de la sensibilisation. Il y aura aussi des temps forts avec une chorale qui sera là, les Luttes Enchantées, et un spectacle de danse.
Le CIDFF, qui est le Centre d'information des droits et des familles, qui a donc une antenne en Ille-et-Vilaine. Bleuhen et Juliette, je vous représente, vous êtes toutes les deux membres du planning familial d'Ille-et-Vilaine qui participent donc au programme autour de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Le détail, il est à retrouver en ligne sur métropole.rennes.fr. Et vous, on vous retrouve en ligne sur le site alors national-planning-familial.org. Vous avez une page locale et on vous retrouve également sur les réseaux sociaux. Et en vrai, votre local accueille aussi le public, boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny. Mais vous déménagez bientôt, faut le dire. C'est pour quand ?
C'est pour début avril, donc on déménage boulevard de la Tour d'Auvergne, 35-37.
Pas très loin.
Voilà, pas très loin.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises. Je sens que je m'amenuise. Et d'instinct, je te résiste. Depuis si longtemps, j'existe. Depuis si longtemps, je t'aime. Mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. As-tu
supposer que tu vives. Tu n'es rien sans ta captive, mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Anne Sylvestre, Non, tu n'as pas de nom, c'était le choix musical de Juliette du planning familial d'Ille-et-Vilaine, un titre de 1974 qu'on retrouve sur un album, Les pierres dans mon jardin. C'était son 9e disque et elle a précisé depuis que dans ce titre, elle n'évoque pas uniquement la question de l'avortement, mais bien celle du choix d'avoir ou non des enfants. C'est un morceau que vous venez d'écouter sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale de notre station. Avant de se quitter, quand même, la recommandation du jour. La recommandation du jour, si vous nous écoutez régulièrement, vous le savez, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils d'événements à vivre près de chez vous, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou encore de documentaire. Aujourd'hui, on annonce deux expositions d'un collectif d'artistes porteurs d'autisme, j'ai nommé Hors les cadres. Ce collectif, il a été créé en 2002 et il cherche à rendre visibles les créations de 5 artistes, on les cite, Aristide Fleur des Pois, comme comédienne et artiste plasticienne, Babouillac sans parole, une poète enfermée dans un corps muet que vous avez peut-être déjà aperçu dans les rencontres du Papotin sur France Télévisions. Lucille Notin-Bourdeau participe aussi à ce programme. Tiens, elle est illustratrice et chanteuse. Il y a aussi Marjolaine, illustratrice passionnée de bande dessinée. Et enfin, Polo Renard, également artiste bédéaste. À partir d'aujourd'hui, mardi 5 mars et jusqu'au jeudi 25 avril, vous pourrez découvrir leur travail à travers deux expos à la galerie L'Inventerie à Montauban de Bretagne et au pôle socioculturel de Quédillac. Dans les deux cas, on est à 30 minutes au nord-ouest de Rennes. Les ébaucheurs de temps, c'est la première expo, une mise en lumière des œuvres de ce collectif, Hors les cadres, et avec Corps à l'arme blanche, on découvre le résultat d'une résidence photo menée au FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain, résidence autour du thème du corps et de sa perception à travers le handicap. Ces deux expositions partiront ensuite en itinérance dans différentes médiathèques du territoire jusqu'en décembre. Plusieurs ateliers seront par ailleurs animés par les artistes dès cette semaine. Par exemple, ce jeudi 7 mars, un atelier théâtral autour du masque qui est proposé à Saint-Main-le-Grand avec Aristide Fleur des Pois. Pour plus d'informations, il y a le site de la communauté de communes saintmain-montauban.fr. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine. Le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.